On va passer à la partie débat. Donc, les gens dans la salle pourront me faire signe qui voudraient intervenir. Donc, alors, on va commencer par 10 minutes dans la salle et 10 minutes à distance.
Bonjour, donc je suis Bertrand Séné, je suis économiste. Il y a quelque chose qui m'intrigue en fait concernant Engie et qui m'intéresse en tant qu'économiste. En effet, vous avez parlé de nombreuses actions que vous faites en faveur de la sobriété, comme si ça allait de soi. Or, le chiffre d'affaires d'Engie n'est-il pas lié à la consommation d'énergie? Et du coup, par quel miracle êtes-vous donc incité à favoriser la sobriété? Quels intérêts vous y poussent? Quelle réglementation peut-être? Et si Engie contribue vraiment à la sobriété, ça devrait être un modèle à suivre pour d'autres secteurs. Donc c'est vraiment une question, ça m'intrigue. Voilà.
Alors, pour les industriels, c'est très simple. Engie Solutions ne gagne pas sa vie en vendant de l'énergie. Il gagne sa vie en vendant des solutions aux industriels et en leur proposant même d'investir à leur place, c'est-à-dire à la limite le système de refroidissement du data center, c'est nous qui le construisons, c'est nous qui l'exploitons. Le système de récupération de la chaleur, c'est nous. Eux, ils exploitent le data center, mais le système de refroidissement, c'est nous. Et on a un contrat pour ça sur 25 ans où ils vont nous payer le capital qu'on a investi et puis on va assurer la maintenance. Pour les clients domestiques, la logique est assez différente. On veut que nos clients soient capables de payer leurs factures. Or, avec le bond qu'on a eu sur le prix de l'énergie, le risque d'impayé a augmenté considérablement. Donc, une politique déjà de gestion des impayés astucieuse, ça consiste à essayer d'aider le client à réduire sa facture. Et deuxièmement, c'est aussi une politique de fidélisation. C'est-à-dire que le client, nous espérons qu'il se souviendra qu'au moment où les temps étaient difficiles, Engie était là pour lui donner des conseils, pour lui dire comment réduire sa consommation et donc réduire sa facture, et que du coup, il signera plutôt avec nous qu'avec un concurrent la prochaine fois. C'est un peu un pari, mais si vous voulez, au prix de l'énergie qu'on a atteint, notamment ces derniers temps, on ne peut pas faire autrement que d'être solidaire de nos clients. Moi, une entreprise qui vit bien et dont les clients meurent, j'en connais pas. Donc, on aide nos clients à vivre. Oui, alors tu as le fabricant de cigarettes, mais ça marche parce que on meurt assez lentement du cancer du poumon, malheureusement. Mais voilà. Mais à part le modèle du fabricant de cigarettes, il n'y en a pas beaucoup. Donc on veut des clients heureux. Parce que les clients heureux, c'est des clients fidèles.
Bonjour, Alexandre Storelli. On a aujourd'hui un système de consommation qui est en particulier alimenté par l'effet de la publicité, avec des gens extrêmement compétents pour créer des besoins, les entretenir. Et là, je pense, il y a une commission notamment avec Thierry Libert, si ma mémoire est bonne. Il avait été évoqué que les publicitaires puissent mettre à profit leurs compétences pour influer sur ces millions d'arbitrages qu'on fait au quotidien. Ma question est, avez-vous un espoir que cela soit suffisant pour changer ces arbitrages ou est-ce négligeable par rapport à ce que pourrait apporter par exemple la justice sociale ou les réglementations? Merci.
Ça, c'est une question pour Valérie.
J'imagine.
Merci beaucoup pour votre question. Alors, c'est vrai que la publicité est souvent épinglée. Alors, moi qui suis dans le marketing, voilà, c'est une vraie question. Alors, déjà, je pense que ça ne suffirait pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas une mesure qu'il faut, c'est tout un ensemble, voilà, pour qu'on aille dans le bon sens et vite et bien et massivement, etc. Par contre, pour la publicité, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait, déjà, pour leur dire, il faut arrêter la publicité. Je ne suis pas sûre, j'ai aucun intérêt à la publicité. Je ne suis pas sûre parce que qui fait connaître les enjeux aujourd'hui des associations caritatives, par exemple, des causes? Donc là, c'est un peu quand même la médiatisation. D'ailleurs, la Belgique a fait une publicité il y a, je sais pas, 4-5 mois, extrêmement. Elle est marrante. J'ai presque envie de dire, enfin, elle est bête, hein, c'est des pieds. Vous voyez les pieds des Belges, là. Enfin, je ne sais pas si ce sont Belges d'ailleurs, mais j'espère que le shooting a été fait en Belgique. Et voilà. Et quel est le meilleur transport, vos pieds? Bon, c'est l'humour belge, d'accord? On aime, on n'aime pas. Mais en tout cas, vous voyez, mais empêche que ben, ça promeut un certain. Enfin, forcément, ça oriente nos imaginaires. Forcément. Donc, je pense qu'il y a vraiment le fait de dire il y a une publicité pourquoi? Et ça, effectivement, pareil, qui prend la décision? Collectivement, on décide que quelles publicités sont, alors j'aime pas bonnes et mauvaises, parce que c'est tout un jugement de valeur, mais on va dire, sont plutôt pour nos imaginaires les moins nocives, et quelles publicités sont totalement nocives. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, je parlais des enfants, par exemple, donc des personnes extrêmement vulnérables, et c'est une vraie guerre dans les cours de récréation, parce que les marques, parce que, etc., etc. Donc moi, je pense qu'il y a une vraie question ici. Et une deuxième question sur les supports. Parce qu'il y a la publicité, il y a le contenu, mais aussi les supports. Et là, effectivement, il y a, je pense, des choses à faire extrêmement rapidement. Et ça, ça n'engage que moi. Mais ne serait-ce que déjà les supports qu'on trouve dans les gares, vous savez, les écrans qu'on trouve dans les gares. Et on sait, je crois que c'est Didier qui l'a rappelé, que les écrans, du moins le matériel, ça, voilà, c'est l'énergie, en fait, qui ne sert, à mon sens, à rien. Vu ce qu'il y a sur les écrans, mais ça, encore une fois, c'est un parti pris très personnel, je pense que là, on pourrait s'en passer. Voilà. Donc, je pense que voir la publicité, il faut vraiment le contenu. Quel contenu? Et on revient toujours sur la même question, en fait. Qui décide quoi, quel niveau, etc. Et le support.
C'est pour ça que je la qualifiais de bombardier responsable de marketing de la publicité. Il y a de la publicité à faire de la sobriété. Il y a de la publicité à faire sur la sobriété.
Juste dire un mot, il y a évidemment un enjeu majeur sur la manière dont la publicité aujourd'hui entretient des modèles surconsuméristes et façonne et entretient notre imaginaire dans ce sens. Et donc, je suis d'accord, il ne faut pas interdire la publicité telle qu'elle, il faut interdire des modes de publicité qui sont eux-mêmes super énergivores, parce que là, c'est double peine, c'est le cas... Des écrans, mais il faut absolument réguler davantage la publicité. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nos imaginaires ne passent pas que par la publicité, et qu'il y a aussi un travail sur les séries, sur un certain nombre de productions culturelles. Moi, je pense par exemple que le service public de l'audiovisuel a une vraie responsabilité dans l'introduction dans les séries que tout le monde regarde, qu'en tout cas beaucoup de gens regardent, pas beaucoup, mais de modèles, de mode de vie, qui montre justement cette sobriété heureuse. Prendre son vélo plutôt que sa grosse bagnole pour des déplacements du quotidien, etc. Et voilà, donc plus globalement, il y a vraiment un enjeu de retravailler nos imaginaires à travers les supports, les médias de masse que sont la publicité, mais les autres médias, notamment audiovisuels.
Michel, mais juste pour une référence, il y a l'ADEME qui a sorti l'année dernière, enfin qui a réactualisé, pardon, un rapport qui est sur la communication, pardon, responsable, et c'est un rapport qui, voilà, qui donne plein de pistes. C'est l'ADEME, donc forcément il n'y a pas, voilà, c'est plein de pistes différentes, extrêmement intéressantes. Donc il a été réactualisé, je crois, en fin 2022. Donc communication responsable de l'ADEME. Enfin, j'ai aucun intérêt à le.
Oui, bonsoir. La voiture d'aujourd'hui, elle pèse effectivement 2 à 3 fois plus qu'il y a 30 ans. Mais elle rend strictement le même service, c'est-à-dire transporter non pas 5, mais 1,2 personnes en moyenne pour 35 km par jour à 35 à l'heure de moyenne. Et en plus, elle ne dit pas où elle va, à l'opposé du bus, du train, de l'avion. Si j'étais maire, je dirais la semaine prochaine et pour tout le reste de votre vie, plus personne ne roule en voiture, à part les médecins et les infirmières, à moins de 3 personnes. Et mettez une ardoise magique sur le coin de votre pare-brise pour dire où vous allez. Ah, oui. Et on aurait moins de pollution.
Voilà. Alors, ECOV, qu'a cité Yves, c'est un peu ça. C'est-à-dire, vous habitez en banlieue d'une ville centre quelconque, hein, banlieue d'Annecy. Vous faites tous les jours le même trajet entre votre lieu d'habitation et Annecy. Vous vous inscrivez sur un service en disant, moi, je fais tout le temps ce trajet, je suis prêt à prendre des passagers. Et on institue des arrêts standards et les clients font savoir sur leur application qu'ils attendent à l'arrêt et la prochaine voiture de tous ceux qui sont inscrits qui passent devant l'arrêt prend le client et l'emmène un peu plus loin. Donc, on arrive à gérer on arrive à gérer avec un niveau de contrainte plus faible, mais en motivant les gens. Apparemment, les gens sont très satisfaits du service. Il y a un très fort taux d'adhésion. Les gens font connaissance de voisins ou de gens qui habitent à proximité de chez eux, qu'ils ont transportés, à qui ils ont rendu service. Ça crée du lien social, ça marche pas mal. L'interdiction totale de la voiture, c'est un peu compliqué pour le malheureux qui habite à 5 km du prochain arrêt de bus, quoi. Il y a un moment où... Voilà. Mais Nous, on travaille beaucoup avec les municipalités sur offrir des solutions de mobilité. Je vous ai parlé des bus à hydrogène au niveau de service, mais on offre des gammes de services de mobilité, y compris des voitures décarbonées. Mais l'interdiction totale, c'est compliqué parce qu'on, comme le disait Yves, la façon dont on a aménagé la France a créé des tas d'endroits où les gens ont du mal à se débrouiller sans voiture.
Sur ECOV, un des intérêts de cette modalité, c'est que justement sur des lignes où la fréquentation n'est pas suffisamment continue, c'est beaucoup plus intéressant pour la collectivité de cofinancer le service que d'assurer un service en transport en commun. Parce que le problème des transports en commun, c'est que la ligne doit fournir le service, y compris tard dans la nuit ou dans les heures creuses, ce qui coûte extrêmement cher par rapport au nombre de passagers. Et à propos d'ECOV, moi, il y a un chiffre dans le marketing du coup de cette entreprise que j'adore, qu'utilise Thomas Matagne, pour ne pas le citer, qui est le patron d'ECOV. Il dit « En heure de pointe, nos véhicules transportent 60 millions de sièges vides ». Je trouve ça extrêmement frappant sur la déperdition, parce que vous avez complètement raison sur l'occupation d'espace. Alors, c'est une vieille étude, je ne sais pas ce qu'elle donnerait aujourd'hui, mais à une époque, une étude avait montré que dans Paris intramuros, les véhicules occupent plus de surface au sol que les habitants. Et juste, ça m'amène quand même, au-delà de la question des corps, à une question encore plus fondamentale, parce qu'on ne va pas se passer de voiture. Mais on a le droit d'arrêter d'utiliser la même voiture pour tout. Et donc, notre point de vue, nous, c'est qu'il faut aller vers le véhicule électrique en particulier, mais que le véhicule électrique étant un outil différent du véhicule thermique, dans son mode de recharge, dans son modèle économique, dans plein de choses, et ben c'est l'opportunité en fait, de nous défaire de cette dépendance à la voiture en propriété individuelle, et notamment d'aller vers des modes où vous accédez à des flottes de véhicules partagés, de petits véhicules électriques en milieu urbain et vous louez des berlines lorsque vous avez besoin de faire des déplacements plus importants, par exemple. Mais on voit bien que ça demande des changements au niveau des stratégies de constructeurs qui sont majeures. Aujourd'hui, en Chine, il y a des constructeurs qui construisent des petits véhicules électriques bridés à 60 km/h et ça marche du feu de Dieu. Ça va arriver en Europe parce que c'est totalement adapté à beaucoup de nos usages et nos constructeurs automobiles européens sont en train de rater complètement ce virage-là par manque d'anticipation et de projection.
Alors, vous trouverez sur le site de l'École de Paris où il y a beaucoup de choses, une séance formidable sur ECOV qui date de novembre 2021. Et puis, il y a une autre initiative que je trouve géniale, ça s'appelle Réseau Pousse. C'est quelqu'un qui a mis en place un service d'autostop en créant des arrêts d'autostop. C'est-à-dire que dans le début, il y a un arrêt d'autostop qui ressemble à un arrêt de bus et tout est organisé pour que l'autostop marche et ça se diffuse dans énormément de communes actuellement. Vous trouvez ça aussi sur le site de l'École de Paris. Et évidemment, vous trouverez la présentation de Valérie Guillard plus récente sur le site. Alors, Valérie, vous voulez dire quelque chose?
Oui, juste pour questionner en fait ce sujet-là par les sciences sociales, pour le coup. Toutes les pratiques de sobriété nécessitent en fait de questionner nos rapports aux normes sociales et effectivement notre rapport à l'autre. Et si certains consommateurs ne veulent pas faire du covoiturage alors qu'ils auraient l'opportunité de le faire, c'est aussi parce que c'est plus confortable, bien sûr, d'avoir sa voiture, hein, évidemment. Et puis, il faut faire la conversation. Il faut attendre. Il faut. Et puis, moi, j'aime bien écouter ma radio. Donc, j'aimerais bien écouter, voilà. Et en fait, ça, c'est un niveau d'analyse d'infraordinaire, en fait, qu'on ne tient pas compte. Vous voyez, on prend des solutions techniques, on dit, voilà, il y a un arrêt, il y a ça, etc. Mais quid de la petite révolution, enfin, pas un mot à mon avis approprié, mais bon, individuelle, sur son confort, sur la relation à l'autre. Et moi, je pense que étant dans une société quand même un peu individualiste, on va le dire, ça nécessite de re-questionner notre rapport à l'autre, notre petit entre-gens, voilà, le matin, je n'ai pas forcément envie de discuter, etc. Et ça pose aussi, et cette question, comme vous le dites sur les véhicules, moi je suis spécialiste sur les véhicules, mais pourquoi pas la voiture partagée, j'ai aussi envie de vous dire. Vous voyez, il y a une voiture partagée, 3 ménages, 4 ménages, on habite à côté, c'est assez simple, tout le monde n'a pas besoin forcément en même temps, etc. Donc en fait, voilà, il ne faut peut-être pas oublier non plus. Enfin, j'ai aussi envie d'apporter un petit questionnement sur voilà, notre rapport à l'autre, parce que ça le questionne directement. Ouais, c'est comme, je ne sais pas, vous avez une tondeuse partagée, c'est la même chose. Il faut que j'aille voir mon voisin, la tondeuse à dispo, il faut que je lui raconte un peu, il faut que j'écoute, il va me raconter sa vie, il faut que je prenne un café, parce que quand même, on va prendre la tondeuse comme ça en 2 secondes, etc. Et tout ça, c'est des choses que, voilà, c'est du code, enfin, c'est du vécu. Enfin, c'est du vécu, je veux dire, c'est ce qui se passe entre les gens.
Donc, on passe la parole à distance, Christophe Biet. Alors, il faudrait essayer que les réponses soient plus courtes parce que les questions se bousculent.
Merci. Alors, j'ai plusieurs questions. J'en ai 3 petites et 1 plus grande. La petite, on commence un petit coup sur la publicité. Est-ce qu'il ne pourrait pas mettre, avez-vous besoin, entre guillemets, de ce produit comme on a éventuellement fumé-tu? Est-ce qu'avant d'acheter, on n'aurait pas l'obligation de mettre un panneau, en gros, avez-vous vraiment besoin de ce produit? Voilà, ça c'est une première question. J'imagine que c'est pour Valérie. Et puis j'en ai 3 des petites comme ça.
Je fasse court parce qu'en plus, vous avez envie d'un cocktail là. Donc, alors, on voit bien, j'ai envie de dire, fumez-tu, ça ne marche pas. Voilà. Donc, il y aura peut-être effectivement des moyens plus. Mais en même temps, je trouve que ça me fait penser au nudge, en fait. Ça, c'est un nudge. Et finalement, le nudge, on voit l'efficacité. Donc, vous voyez, j'ai les 2 choses. Fumez-tu, c'est vrai que c'est très négatif. Puis, en fait, on est dans le déni. Donc, forcément, ça ne marche pas. Par contre, ce que le monsieur ou la dame, effectivement, suggère, et finalement, oui, si, c'est une bonne idée. Vous voyez, il faut que j'élabore en même temps que je parle. Mais non, parce que le nudge est très efficace, en fait. Donc, oui.
Il faudrait juste que celui qui le vend ait intérêt à le faire. Donc, il faudrait que je l'oblige. Enfin, ça pose plein de questions derrière. Mais en tout cas, je ne faisais que de retransmettre la question. Merci. Une autre question. Alors, je n'ai aucune idée si c'est vrai ou pas. Il me semble que le prix du kilowattheure heure creuse, heure pleine, est aujourd'hui beaucoup plus étroit, beaucoup plus proche qu'il l'était il y a une ou 2 décennies. Et si c'est le cas, on n'irait pas dans le bon sens. Alors, je ne fais que reporter la question. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a un énergéticien parmi nous, peut-être qu'il sait. Oh,
c'est une question.
La différence entre heure creuse et heure pleine, est-ce que c'est…
Je devrais savoir, d'autant plus que j'ai un abonnement heure pleine, heure creuse. Mais honnêtement, je ne sais pas si l'écart a baissé. Ce que je sais, en revanche, c'est que heure pleine, heure creuse est un système trop rudimentaire pour le monde auquel nous nous préparons. Dans un monde dans lequel il y aura plein de solaire, de photovoltaïque, etc., partout. Ce qui compte, ce n'est pas les heures pleines, heures creuses qui ont été déterminées en fonction de certains usages à un moment donné, de certains modes de production. C'est localement, autour du poste source, c'est-à-dire le poste de transformation 20 000 volts qui alimente le quartier, est-ce qu'on est plutôt en ce moment en surplus d'énergie ou en manque d'énergie? Et si on est en surplus d'énergie, c'est le moment où il faut déclencher les machines à laver. Si on est en manque d'énergie, c'est le moment où il ne faut surtout pas déclencher la machine à laver. Et c'est cette information-là qu'il faudrait qu'on ait maintenant pour pouvoir réellement optimiser, éviter qu'il y ait de l'énergie produite, perdue par les éoliennes et le solaire, et optimiser le moment où on fait tourner. Alors, j'ai pris la machine à laver, mais il y a des tas de choses sur lesquelles on n'est pas à quelques heures près, notamment chauffer l'eau du ballon d'eau chaude, recharger la batterie de la voiture au-delà des 20 premiers kilomètres. De toute façon, on ne fera pas plus de 20 kilomètres par jour, mais 35. Au-delà des 20 premiers kilomètres, le reste de la charge, il peut attendre. Donc, voilà. Au-delà d'heure pleine, heure creuse, on n'échappera pas dans la transition à donner ce signal qui permette aux gens d'adapter leur consommation à la disponibilité de l'électricité localement.
Quand on parle de tarification, c'est quand même l'occasion de dire qu'il y a un sujet qui est d'aller vers une tarification progressive. C'est-à-dire où les premiers kilowattheures sont très peu chers, voire pourquoi pas gratuits, mais où le prix augmente à mesure qu'on consomme. Alors, ça ouvre plein de discussions que je n'ouvre pas là, mais je voulais quand même poser ce sujet dans le débat.
Donc, Christophe, tu passes tout de suite à la grosse question.
Alors, la grosse question, alors ce n'est pas vraiment une question, c'est quelqu'un qui demande à passer plus de temps sur l'aspect démocratique Parce que, en suggérant qu'effectivement, on comprend bien l'impasse politique des gens qui ne veulent pas faire des choses parce qu'ils ne seraient pas réélus. Donc, sans doute que l'aspect démocratique est essentiel, mais alors, qu'est-ce qu'on dit derrière ça? La question, c'est, ça mériterait sans doute un peu plus de temps. Donc, ce n'est pas une question précise, mais c'est une demande de repasser du temps dessus.
Je pense que il y a des territoires qui se saisissent de cette question. Et qui, effectivement, ont fondé la démocratie participative. Alors, je pense notamment à une ville, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Moi, je pense à la commune de Malonnet, qui est assez souvent citée en exemple. Elle, c'est une commune qui est, entre guillemets, incroyable dans toutes les mesures de sobriété, d'ailleurs, d'énergie qu'elle met en place, panneaux solaires, etc., etc. Mais en fait, toutes les décisions qu'elle prend, cette commune, ça passe par la démocratie participative. Donc, il y a un conseil et des personnes, effectivement, des citoyens, tout simplement des habitants du village, je ne sais pas comment l'appeler, de la petite ville, qui participent à la décision. Donc, non seulement la ville est extrêmement sobre, mais par contre, c'est décidé avec un conseil de citoyens. Je pense qu'au niveau des territoires, c'est pour ça qu'en fait, on disait tout à l'heure que la sobriété, elle se décide surtout, j'ai envie de dire, au niveau du territoire. Alors, autant au niveau national, c'est compliqué, hein, parce que comment décider à nous tous. Mais par contre, au niveau du territoire, ça se fait. Alors, bien sûr, pas partout, etc., mais ça se fait.
Bien, l'eau sans goël, il se fait beaucoup de choses. Ce dont on se rend compte, c'est qu'on arrive à faire des choses très participatives, très impliquantes au niveau local, mais alors, passer à l'échelle, c'est extrêmement difficile, voire pour l'instant, je ne connais pas de gens qui ont réussi.
Moi, en réponse à cette question ou à ce commentaire, ce qui me vient quand même en tête, et c'était national, c'est la Convention citoyenne pour le climat, qui montre qu'un processus délibératif, dans un processus délibératif sur ces questions, sur la question des limites, la question de la justice sociale, les citoyens produisent des recommandations qui vont tout à fait dans le sens des orientations nécessaires. Ils en sont demandeurs, mais ils y mettent une vraie condition, c'est de ne pas être tout seul, c'est d'être accompagné par les entreprises et d'être accompagné par des politiques publiques. Et alors, on ne peut pas démultiplier évidemment les processus délibératifs de ce type, mais moi, ce que j'en retiens surtout, c'est le volte-face du président de la République qui dit « je prendrai sans filtre » et qui ensuite dresse un mur barbelé et qui ne reprend pratiquement rien. Et pourquoi il ne reprend pratiquement rien ? Parce que, en fait, probablement, il ne s'attendait pas du tout à ce que le résultat soit celui-là. Et ce que je veux dire par là, c'est que la difficulté, je pense, dans laquelle on est, c'est que nos décideurs politiques sont en retard sur la prise de conscience de la société et projettent une réticence de la société à aller dans ce sens parce qu'ils ne placent pas l'enjeu au bon endroit. Et en particulier aujourd'hui avec le gouvernement, ce qui est évident, c'est que l'enjeu qu'il refuse, c'est d'adresser la question de la justice sociale. Dans le plan de sobriété du gouvernement, le gouvernement a délibérément rejeté toute mesure, parce qu'il les considérait comme discriminantes, qui pointent spécifiquement certains usages, typiquement les jets privés, qui sont anodins du point de vue de la consommation globale, mais qui sont extrêmement signifiants du point de vue des inégalités d'accès à l'énergie. Et donc, les politiques ont, je pense, beaucoup à apprendre de la prise de conscience dans laquelle dont sont capables les citoyens et sont encore une fois aujourd'hui en retard. Donc voilà, le déficit, ouais, est beaucoup plus dans la démocratie représentative.
Oui, mais j'ai lu dans Alternative économique un article de François Beaujolin qui est absolument passionnant sur les raisons pour lesquelles la Convention citoyenne pour le climat a échoué. C'est parce qu'elle n'a pas réussi à impliquer le Sénat, enfin les instants. Il n'y a pas que le président de la République. L'idée de sans filtre est une idée qui ne peut pas marcher. Et donc, si vous trouvez cet article, François Beaujolin, vous verrez qu'il y a des pistes intéressantes, mais ça demande du travail. Bon, on va prendre les questions deux par deux maintenant.
Oui, c'était sur le débat démocratique. Et justement, à l'occasion d'échanges vus sur LinkedIn, il y avait une journaliste connue du coin, Véronique Bosner, mais qui interrogeait effectivement, enfin, je trouve que c'est intéressant, qui reprenait un de vos messages en disant en gros, je n'ai pas les termes exacts, mais l'encadrement de la démocratie, qu'est-ce que les gens qui sont pro-sobriété entendent par ça? En gros, c'est quoi la démocratie bien pensée? C'est quoi le bon cadre démocratique? Et effectivement, je le mets aussi en perspective par rapport au sondage qui a été sorti, je crois, à l'occasion de la sortie du rapport RTE, où il y a une sorte de... Alors, j'ai pas lu en détail, mais j'ai l'impression que c'est... On est pour la sobriété, mais pas imposée.
Alors, vous stockez votre réponse, monsieur au fond à gauche, là-bas.
Merci, professeur Berry. J'ai eu le plaisir de suivre les cours du professeur Berry à Dauphine il y a quelques années déjà. Et j'habite ici depuis quelques années, mais ça m'arrive, pour des raisons personnelles, de me rendre à la ville de Livourne, en Italie, où j'étais surpris de voir un jour des gens qui faisaient la maintenance du système d'illumination publique, habillés avec un t-shirt bleu et avec une écriture ici sur le dos, Angie. Donc déjà, mes compliments, j'étais... Et surpris dans le bon sens de voir un petit bout de France en Italie déjà. Livorno, c'est le port de la Toscane, hein. C'est une ville moyenne de 150 000 habitants pour ceux qui ne les connaissent pas. Et donc, déjà, compliment parce que je pense que ça n'a pas été facile de s'imposer sur des marchés internationaux dans des pays avec d'autres colosses énergétiques comme Eni et Enel. Et ma question est la suivante. Je voudrais connaître plus ou moins quelle est votre stratégie dans ces secteurs, dans les secteurs de l'efficience et de la consommation énergétique à l'étranger. Quelles sont vos projections, vos perspectives? Et surtout, je voudrais savoir si c'est plus facile pour vous de réussir à convaincre de marcher à l'étranger dans des pays qui sont déficitaires du côté énergétique, comme l'Italie, il y a fait les centrales nucléaires après Tchernobyl par référendum, ou dans des marchés locaux et en France, où vous jouez la carte de Made in France, mais où l'on dispose de dizaines et de dizaines de centrales nucléaires. Donc, si c'est plus facile pour vous ici ou ailleurs.
Je me souviens très bien du commentaire de Géraldine Vosner, qui était donc, journaliste au Point. Militante acharnée du nucléaire et de la croissance. Je me souviens de son commentaire et de son attaque assez agressive. Et j'essaye de retrouver quel était le post LinkedIn précis. Mais...
Précisément, je pense que la tournure qu'elle attaquait dans votre message, c'était un enjeu commun, dépasser les limites du fonctionnement démocratique actuel, trouver réellement dans l'intérêt général les capacités de rupture et de planification qui nous font défaut.
Oui, je me souviens d'avoir dit quelque chose comme ça, mais je ne me souviens plus quel était le thème général du poste, mais peu importe. Je maintiens totalement cette phrase. Je suis viscéralement démocrate, et Negawatt est viscéralement attaché à la démocratie. On a une approche des sujets énergétiques et écologiques qui s'inscrit dans la soutenabilité forte, et donc la démocratie fait partie des objectifs de soutenabilité, ce n'est pas négociable. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est convaincu que ce dont on parle, les transformations du système énergétique, les transformations des modes de vie que ça accompagne, et notamment la sobriété, n'est envisageable que par des processus démocratiques beaucoup plus horizontaux et engageants qu'aujourd'hui, parce que ça ne se fera que si les uns et les autres, de façon diffuse, s'approprient les enjeux et les solutions. Donc ça, c'est ma position générale et je pense la défendre depuis suffisamment longtemps pour ne pas pouvoir être attaqué là-dessus. Ce que je voulais dire dans cette affirmation, c'est que précisément, notre système démocratique actuel est défaillant vis-à-vis de ces enjeux. Chacun constate chaque jour que les politiques mises en place ne sont pas à la hauteur des ruptures, vous les appelez comme vous voulez, bifurcation, puisque c'est un terme utilisé par certains. En tout cas, on a absolument besoin aujourd'hui de changer. Le GIEC est sans ambiguïté, hein, dit les consommations d'énergie fossile, des infrastructures et des équipements existants ou en cours de construction, et il dit ça l'année dernière, sur leur durée de vie économique, c'est plus que notre budget carbone. Donc, on n'a plus le luxe de faire quoi que ce soit qui ne va pas dans le bon sens. Et malheureusement, nos processus démocratiques ne vont pas dans la bonne direction. Donc oui, j'interroge le fonctionnement démocratique, non pas pour le remettre en cause et pour appeler à une dictature. Moi, la dictature verte que certains appellent de leur vœu, pour moi, ça n'existe pas, parce que une orientation verte au sens soutenabilité, c'est une orientation qui va dans l'intérêt général, justement. Or, la dictature, c'est toujours la captation au profit de certains intérêts particuliers. Donc, c'est un oxymore, de mon point de vue. Donc, le chemin démocratique est le seul possible, mais il implique certainement une régénération de nos processus démocratiques qui, aujourd'hui, ne suffisent pas à nous mettre sur la bonne voie.
Et alors, sur ce point, nous, on a une analyse un tout petit peu différente de celle de l'AIE, c'est-à-dire que nous considérons que ça n'est pas la durée de vie technique ou économique des infrastructures qui définit leur usage. Ce qui fera qu'on n'utilise plus les fossiles, c'est la baisse de la demande, ce n'est pas la baisse de l'offre. L'offre, elle s'adaptera à la demande, et s'il y a des actifs qui se retrouvent échoués, ils se retrouveront échoués. Si au contraire, ils peuvent être convertis à transporter du biogaz ou du gaz naturel, ils continueront à avoir une utilité. Donc, je pense qu'il faut dissocier le problème des infrastructures et des investissements qui ont été faits, qui appartiennent au passé, et le problème de la gestion de la demande. Et là, on est bien dans notre sujet de sobriété. Pour répondre à la question de M. Lao, alors, on n'est pas seulement à Livorno, mais on est effectivement dans le domaine des services, on est présent en Espagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Roumanie, en Italie, etc. Et partout, on essaye d'apporter le même type de réponse à nos clients, c'est-à-dire, vous avez un problème d'énergie, vous rendez un service, si vous êtes une collectivité, à vos citoyens, si vous êtes une entreprise, à vos clients. Vous souhaitez rendre le même service avec moins d'énergie, et nous, on est même prêt à discuter de dire est-ce que vous ne pouvez pas donner un service un peu dégradé ou avec moins d'énergie, et on est même prêt à investir à votre place dans le nouveau système qu'il faut mettre en place, et donc à se faire rémunérer sur un contrat de 25 ans au lieu de vous obliger à investir vos propres capitaux dans cette affaire, parce qu'au fond, on la gérera mieux que vous, parce que l'énergie, c'est notre équipe. Donc, cette offre de service, on l'a fait dans tous ces pays européens. On le fait aussi dans un certain nombre de pays étrangers. On le fait hors européen. On le fait au Brésil, on le fait à Singapour, on le fait en Malaisie, aux États-Unis, etc., au Mexique. Donc, et partout, ce qu'on apporte justement, c'est le fait que nous-mêmes, on n'invente pas tellement de technologies chez Engie, on a de la recherche, on en fait quelques-unes, mais surtout, on regarde ce que font les meilleurs dans une industrie en termes d'économie d'énergie, de ne chauffer ou de ne refroidir que vraiment ce qu'il faut, de récupérer la chaleur fatale, etc. Et on va l'apporter aux autres en leur disant, vous savez, ça, c'est des solutions déjà éprouvées, ça marche ici, ça marche là, on va les combiner comme ci et comme ça, et ça va résoudre votre problème, et ça va vous permettre de avoir peut-être un service un peu moins global, immédiat que celui que vous aviez imaginé, mais qui va satisfaire votre client et en consommant beaucoup moins, en émettant moins de CO2. Et ça, c'est une offre qui marche partout.
Vous avez répondu à la question que je voulais poser, mais j'en ai une autre. En fait, c'est toujours difficile d'envisager des scénarios de rupture. On a vraiment l'impression que les choses n'avancent pas. En tout cas, ce que vous disiez sur les politiques, on en peut être particulièrement déçu. À votre avis, on a combien de temps là avant que tout ça… combien de temps on a devant nous pour organiser une sobriété ?
Oui, je m'intéressais en fait à finalement le pourquoi de la sobriété énergétique. Parce que est-ce que ça veut dire que finalement, avec l'efficacité énergétique, on ne va pas arriver à ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes climatiques ? Il ne me paraît pas évident, parce que pour moi, c'est une affaire de moyens. Par exemple, si vous prenez une maison très basse consommation, vous arrivez à 20 kWh par mètre carré, c'est-à-dire 90% de moins qu'une maison moyenne du parc actuel. Si on reprend l'exemple de la mobilité, par exemple, par véhicule, si on avait tous des véhicules électriques et on avait l'électricité verte abondante, après tout, pourquoi restreindre le besoin, puisque finalement, on aurait quelque chose qui n'aurait pas d'incidence.
Il reste à fabriquer les véhicules électriques et les terres rares, etc.
Oui, c'est vrai, il reste ce problème-là. Mais bon, donc voilà. Et puis, et pourquoi finalement, j'entendais Yves qui disait qu'on aurait une petite moitié du chemin qui serait fait par la sobriété énergétique et donc une grande moitié par l'efficacité. Qu'est-ce qui a fait qu'on a déterminé ça? Est-ce que c'est un autre
problème? Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que l'efficacité énergétique ne suffirait pas, en gros?
L'efficacité est nécessaire, mais pas suffisante. Et on en a plusieurs exemples. Je vais en prendre trois rapidement. Il y a une étude qui a montré qu'en Allemagne, il y a ces 20 dernières années, je crois, un gain en moyenne d'environ de supérieur à 20% sur la performance énergétique des chauffages. Donc, les kilowattheures consommés par mètre carré pour le chauffage des logements, mais il y a dans le même temps une augmentation de 20% des mètres carrés par habitant. Et donc, vous effacez totalement par l'absence de sobriété les gains que vous faites en efficacité. Autre exemple qu'on a déjà mentionné, hein, c'est les véhicules. Je veux dire, on a des véhicules de plus en plus performants au niveau de l'efficacité de leur moteur. On a même maintenant, avec les véhicules électriques, un saut en performance majeur. Si c'est pour faire des véhicules toujours plus lourds, on perd, et être toujours seul dedans, on perd par manque de sobriété les gains qu'on fait en efficacité. Dernier exemple pour sortir du contexte français, c'est un collègue et un ami indien qui nous montrait cette étude l'année dernière. En Inde, les nouveaux riches rivalisent d'efficacité sur la performance de leur maison. Mais c'est de l'efficacité pour avoir, par exemple, des fontaines artificielles dans 2, 3, 4 pièces dans leurs énormes villas. Et donc, on perd là aussi totalement les gains de sobriété. Donc, il faut absolument combiner les deux. Après, l'équilibre 20 points, 30 points auxquels on arrive en France, c'est notre optimisation tenant compte de tous les facteurs qu'on a évoqués, l'énergie, mais aussi les ressources, les usages des sols, etc. Et cet équilibre peut être différent dans les pays. Puis je vais essayer de répondre très vite à combien de temps pour organiser la sobriété. En fait, je n'ai pas de réponse, c'est un certain temps, mais ce temps, il est de plus en plus court. On sait que vis-à-vis notamment du changement climatique, les inversions fortes de tendance sur nos émissions doivent intervenir bien avant 2030 pour respecter nos budgets carbone. On vient de calculer pour le projet de scénario européen que j'ai mentionné tout à l'heure la trajectoire d'un budget carbone européen compatible avec une part européenne, démographiquement parlant, du budget carbone mondial pour rester sous 1,5 degré, en étant prudent sur les puits de carbone naturels, parce qu'il y a plutôt des mauvaises nouvelles de ce côté-là. La réponse, c'est qu'il faut avoir fait non pas 55% de baisse d'ici 2030, c'est l'objectif du paquet Fit for 55 actuel, il faut plutôt avoir fait 64%, 65% de baisse d'ici 2030. Et en fait, le seul levier que vous pouvez activer à court terme pour vous inscrire dans cette trajectoire, c'est la sobriété. C'est également le seul levier dont vous disposez pour, à long terme, faire les derniers pourcents de décarbonation qui sont les plus difficiles à aller chercher.
Oui, je voudrais faire un autre élément de réponse. Il y a effectivement l'effet rebond qu'a cité Yves et qui joue effectivement. Mais il n'y a pas que ça. On a un temps limité. Il faut être net zéro avant 2050. Et Engie a publié l'autre jour notre scénario de référence à l'échelle européenne. Pour arriver à le tenir, il n'y a pas une question de savoir s'il vaut mieux faire du nucléaire ou de l'éolien ou du solaire. Il faut tout mettre sur le pont juste pour arriver à tenir l'objectif, et y compris en y intégrant la sobriété. Donc, l'idée qu'un jour l'électricité verte deviendra si abondante qu'après tout, on n'aura plus besoin de se rationner, elle est peut-être vraie après 2050 si la fusion thermonucléaire marche tellement bien qu'on arrive à faire tout ce qu'on veut, etc. Mais d'ici 2050, elle est fausse. D'ici 2050, en mobilisant tout ce qu'on peut, et y compris le nucléaire, que même pas particulièrement hip, mais ce n'est pas le sujet du jour, même en mettant tout sur le pont, le nucléaire, l'éolien offshore, la géothermie, le machin, etc., en faisant tout à fond, on passe tout juste. Et donc, il faut réduire le besoin. Si on n'arrive pas d'une certaine façon à maîtriser le besoin et à le réduire un peu, on ne passe pas. On ne passe pas d'ici 2050. Après 2050, peut-être qu'il y aura à nouveau une période d'énergie abondante, machin, etc., J'espère que mes petits-enfants en profiteront. Mais d'ici 2050, pour qu'ils puissent profiter de quoi que ce soit, il faut que nous soyons sobres.
Oui, bonjour, Marie-Hélène Morvan. Je m'intéresse aussi à la sobriété dans la sphère économique au travers de l'association Sobériser. Et je voulais revenir sur une des illustrations que vous avez faites, Valérie, sur le jean, le prix du jean, et interroger au travers de cet exemple, finalement, la mesure de la sobriété et aussi le rapport entre sobriété et prix payé, que ce soit au niveau du consommateur ou au niveau d'ailleurs d'un intermédiaire économique. Je pense que le raisonnement est à peu près le même. Parce qu'en fait, il y a plusieurs manières de prendre le sujet. Vous pouvez vous dire, le jean à 120 euros, j'ai intérêt à l'acheter. Pourquoi ? Parce que son obsolescence sera plus lente et donc il n'y aura pas de renouvellement. Voilà. Et donc même moi, en tant que consommateur à long terme, j'ai vraiment intérêt à l'acheter. Mais à condition que j'ai les moyens de me payer ce jean aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est un premier raisonnement. Le deuxième raisonnement, c'est bien sûr de se dire, je mesure la sobriété à partir de sa production, donc des externalités qui ont été produites. Alors là, on a une mesure qui est existante. Monsieur Hollot, vous rappeliez l'ETS, donc on mesure effectivement l'empreinte carbone au niveau européen. Il y a la taxe carbone aux frontières qui pourrait, si on arrive à la mettre en œuvre, ce qui n'est pas quand même gagné, aider. Mais quid des autres externalités ? Donc, un jean, ça consomme énormément d'eau, et la biodiversité qui a été détruite, etc., etc. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on a, on a évidemment une grande difficulté à mesurer cette sobriété. Et alors, dernière hypothèse, c'est aussi construire un affichage, comme l'affichage environnemental, qui va être obligatoire sur l'alimentation et aussi sur le textile d'ailleurs. Et là, c'est pour porter finalement une forme de mesure de l'empreinte environnementale et donc de la sobriété. Mais je ne sais pas si on est allé jusque-là dans la réflexion sur la sobriété. J'aimerais bien vous entendre. Est-ce qu'un affichage environnemental...
Il nous reste deux minutes. Donc, écoutez, je vais continuer dans l'esprit du jean. Moi, j'ai fait le calcul. Je suis parisien. Je le consomme. Je suis à 5,5 tonnes, en gros. Et j'ai décidé de vivre plus près. Oui, de vivre, disons, humblement. Et j'ai fait le calcul en vivant humblement, c'est-à-dire en ne sortant plus, en faisant que respirer et manger. Donc, j'ai pris les formules de MyCO2, et puis j'ai doublé avec celle de, je sais pas, du service public. Je suis arrivé à 3,1 tonnes. Alors, pourquoi ? Parce que dedans, il y a 2 tonnes de service public. Enfin, je pense que ça doit être ça comme ça. C'est-à-dire que moi, j'arrive au taux de l'Africain, en gros. Celui qui fabrique le jean à 25 euros. C'est bon. Donc, est-ce qu'on ne se trompe pas de voie ? Là, je me pose la question. Et c'était toute une question à Engie que je voulais poser à la suite de ce calcul. Au fond, nous, on est riches. Il faut faire des efforts. Il y a quand même là-dessus. On va les avoir, les voitures électriques. Mais la population qui grandit fortement actuellement, elle n'est pas chez nous. Elle est en Afrique. Elle se développe énormément. Ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas d'infrastructure. Ils n'ont pas les 2 tonnes. De carbone dans leur chiffrage à eux. Qu'est-ce qu'Engie fait en dehors de ses services dans les pays riches, en quelque sorte, pour, je sais pas, transférer ses technologies en Afrique de manière à ce que ces continents puissent se développer sans produire du carbone. D'accord. Françoise Chevalier.
Merci beaucoup pour tous ces échanges. Ma question est sensiblement différente. Moi, je m'interrogeais sur la sobriété et comment la sobriété est-elle mise en place à l'intérieur de l'entreprise et chez Engie, qu'est-ce que ça change en termes de management des personnes, des équipes, de manière très concrète ?
Alors, sur le jean, merci beaucoup pour votre question. Je pense que c'est… Alors, je vais commencer par la dernière. Sur l'affichage, oui, c'est en prototype en ce moment. Alors, je m'excuse, mais je ne sais plus si c'est ReFashion qui sont en train d'en faire un ou un autre organisme. Très simplement, je ne me souviens plus. Mais par contre, l'affichage environnemental pour les vêtements, pour le textile, donc, est en voie d'exister. En tout cas, c'est un prototype. Moi, je les ai vus. Pour l'instant, je trouve que c'est incompréhensible, mais ça reste entre nous. Pour le commun des mortels, c'est complètement incompréhensible. Moi, je n'ai rien compris. Alors, c'est peut-être moi, certainement. Je sais pas, j'étais en faiblesse ce jour-là, mais en tout cas, tout ça pour dire, pour être plus sérieuse, que ça existe et que ça va exister, effectivement. Après, vous savez, entre ça existe et je prends des décisions avec, encore une fois, cet affichage-là, là, encore une fois, on revient toujours, il y a aussi un gap. Mais en tout cas, ça, c'est en bonne voie. Par rapport à ce que vous avez dit sur le jean, bon, à 120 euros, attention, c'est pas parce qu'on paye 120 euros déjà qu'il va être forcément plus durable dans le temps. C'est très paradoxal, mais c'est vrai.
Souvent, c'est des vêtements qui sont assez fragiles, en plus. Des idées, ouais, on est plein d'idées reçues. Et aujourd'hui, en fait, attention, je pense que les recommandations, c'est un, ne plus acheter neuf, surtout le textile. Vous avez parlé de l'Afrique, on est envahi de textile. Donc, juste là, je ne parle que du textile. Hein. Donc, un, c'est ne plus acheter de vêtements neufs. Deux, c'est acheter d'occasion, si vraiment on en a besoin, effectivement. Et c'est là, effectivement, où on peut regarder qu'est-ce qu'on va acheter, est-ce qu'on va acheter la fast fashion ou pas, et c'est là que la question, elle se pose. Mais effectivement, là, je pense que c'est les recommandations, elles sont vraiment, pour limiter les externalités dont vous avez parlé, vraiment, la première recommandation, c'est faisons avec ce qu'on a. Alors après, vous allez me dire, ça pose plein de questions sur l'emploi, sur etc. Enfin, voilà, parce que ça, on n'a pas évoqué, mais c'est une vraie question aussi.
Alors, il y avait deux questions. Un, qu'est-ce qu'on fait pour l'Afrique en particulier? Alors, d'abord, pour nous, encore une fois, il y a urgence. En efficacité, on arrive guère à faire plus de 3-4% par an, donc il faut faire de la sobriété en plus pour boucler l'équation. Et je voudrais d'abord m'élever en faux contre tous les gens qui nous disent oui, il faut, on bougera quand les riches auront bougé, on bougera quand on aura fini avec le capitalisme, ça c'est Piketty, et on bougera quand on aura fait je ne sais pas quoi. Il faut bouger tout de suite parce qu'on n'a plus le temps. Et donc, il faut les gens qui commencent à poser des préalables, si on pose des préalables, on est mal parti parce qu'on n'a plus le temps. Alors, c'est pas la peine de bouger parce que de toute façon l'Afrique avec la démographie machin. Bon, donc nous on agit en Afrique, on est présent dans peu de pays africains, on est présent au Maroc, en Égypte, en Afrique du Sud, on y investit massivement dans les énergies renouvelables. On a par exemple la production d'électricité à partir de solaire à concentration, on a du photovoltaïque, on a de l'éolien, etc. On a aussi une petite activité de service, mais essentiellement, on agit dans ces pays en produisant de l'électricité renouvelable pour permettre d'élever le niveau de vie de ces pays sans émettre de carbone. Donc, on n'a pas d'action spécifique dans le domaine de la sobriété dans ces pays-là. En ce qui concerne le changement managérial induit par la sobriété chez Engie, bah, très concrètement, ça veut dire, par exemple, qu'on fait moins de réunions de management en physique. On avait l'habitude de réunir tous les dirigeants, les top dirigeants du groupe un certain nombre de fois par an. Physiquement, on ne les réunit plus qu'une fois par an. Le reste du temps, on fait par vidéo. Alors, c'est moins bien du point de vue managérial pour créer une communauté de management soudée, pour échanger des bonnes idées et faire circuler les gens au sein de l'organisation. Mais si on veut réduire notre empreinte carbone, c'est clair que nos vols internationaux, ça pèse. On a aussi changé de tenue. Moi, je peux venir comme ça dans une réunion de management à quelque niveau que ce soit chez Engie parce qu'on a baissé la clim. Alors, la cravate n'a pas disparu quand on voit des clients. Hier, j'étais avec un ambassadeur, etc. Mais tous les jours au bureau, oui, presque plus personne ne met de cravate. On a des tenues plus décontractées. Et puis, voilà, en hiver, on met un pull. Managérialement, il a fallu s'habituer à gérer avec le télétravail. C'est-à-dire, très concrètement, vous voyez, quand vous êtes manager, vous ne voyez pas toutes vos équipes tous les jours. Si vous les réunissez une fois par semaine, c'est pratiquement le maximum. Le reste du temps, les gens sont devenus plus autonomes. Il faut apprendre à les manager à distance et donc éviter le micromanagement, mais en même temps garder assez de contact pour sentir quand il y en a un qui se sent mal et ça ne se passe pas bien. Donc, ça induit des nouvelles capacités managériales parce que gérer des gens que vous ne voyez plus qu'une fois tous les 15 jours, quelquefois, et le reste du temps, ils sont à distance, ce n'est pas très facile de sentir à quel moment le gars a besoin d'aide. On fait évoluer tout ça. Moi-même, je télétravaille assez régulièrement. Comme j'étais de toute façon nomade avant, ça n'a pas changé grand-chose. Simplement, ma maison est devenue un de mes autres lieux de nomadisme, alors que c'était rarement le cas avant. Mais voilà ce que je peux dire sur la pratique managériale de tous les jours. Et puis,
J'essaye de moins prendre l'avion. Alors, c'est très difficile dans mon job, mais voilà.
Je voulais réagir sur la question sur l'Afrique. Merci de l'avoir posée, parce que ça permet quand même de faire le lien entre les questions de sobriété et de solidarité internationale. Et en vous écoutant, mais d'abord revenu le commentaire vraiment honteux de mon point de vue d'un ancien président de la République qui, ces dernières années, a osé dire que le problème du changement climatique, c'était d'abord le problème des populations qui ne maîtrisaient pas leur croissance démographique en Afrique, notamment quand on sait effectivement quel poids cette population pèse dans les émissions mondiales, surtout si on le regarde de façon historique, et quand on sait pourquoi cette croissance démographique est liée à la pauvreté de ces pays. C'est un retournement de responsabilité qui est pour moi absolument insupportable. À Negawatt, on a commencé à travailler, à regarder la question à l'international au moment de la COP21. On s'est beaucoup impliqué dans la COP21 et on a notamment travaillé, et on avait publié avec la fondation, la FNH à l'époque, une note qui expliquait en gros que la sobriété, elle était indispensable à trois niveaux. Un, pour atteindre les objectifs de décarbonation dans les pays développés, on en a parlé très largement. Deux, comme message essentiel sur un changement de mode de vie auquel aspirer, à envoyer aux classes moyennes qui, par centaines de millions en Chine, en Inde, etc., sont en train de reproduire notre modèle et d'accélérer. C'est ça, mondialement, qui accélère la carbonation du monde et tous les problèmes dont on a parlé. Et trois, simplement dans une logique de solidarité, dans un monde où les consommations, où on est contraint par les limites, effacer des consommations qui ne rendent aucun réel service au Nord, c'est libérer la capacité de répondre à des services vitaux non couverts au Sud. Vous n'imaginez pas le nombre d'acteurs qui nous ont remerciés au moment de la COP21 de poser ça, de mettre ça sur la table, parce que dans le jeu complexe de négociations, etc., cet enjeu vraiment simple avait été perdu de vue. Et je vais finir en disant que la sobriété, aujourd'hui, c'est essentiel de considérer aussi nos trajectoires dans des limites compatibles avec le développement de tous. Dans notre scénario pour la France, on s'est donné comme critère de respecter en consommation cumulée d'ici à 2050 une limite de 1% en gros du cumul acceptable à l'échelle mondiale. Et par exemple, 1% parce que c'est la part de la population française grosso modo dans la population mondiale. Et on l'a regardé notamment sur toutes les matières premières. Et il y a quelques points sur lesquels on est tangent, dont le lithium lié à l'électrification des véhicules. Alors que dans notre scénario, on est hyper prudent sur le niveau d'électrification. On intègre toutes les hypothèses de sobriété dont on a parlé. Et pourtant, on frôle 1% des réserves prouvées de lithium dans notre scénario. Quand on regarde les trajectoires d'électrification prévues aujourd'hui par le gouvernement, la France aurait besoin de 5% de la production mondiale de lithium. On voit bien que ça n'est pas tenable dans une trajectoire mondiale d'être à ces niveaux. Donc, on retrouve par ce biais la nécessité absolue de la sobriété pour permettre un développement compatible avec les limites planétaires dans des pays qui en ont absolument besoin.
Alors, je m'excuse auprès des personnes qui n'ai pas pu donner la parole. Vous pourrez revenir le 17 octobre. Le sujet sera... Mais pourquoi donc les énergies renouvelables ne se développent-elles pas plus vite? Puisqu'elles font partie de tous les scénarios, ben ça avance pas vite. Et la question, c'est pourquoi? Vous verrez, il y a pas mal de raisons. Alors, nous pouvons continuer à discuter grâce au cocktail qui nous est offert par Engie University. C'est juste à la sortie. Et merci pour cette séance.